parole du jour avec le Père Willem.
Honte et connaissance du bien et du mal. Une chute de l'esprit. Oui, vient alors une deuxième série de questions en poursuivant les échanges des derniers jours. Quel rapport entre la honte et la connaissance du bien et du mal? Pourquoi ce fruit était-il interdit? Nous avons coutume, en monde latin, d'associer à la faute d'Adam une connotation sexuelle. La chute serait chute de la chair, convoitise du corps de l'autre. Pour les pères de l'Église de tradition grecque, comme Basile, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne produit pas une chute de la chair, mais une chute de l'esprit. L'homme en vient à être attiré vers l'activité qui vise à combler les manques, et du coup, il se détourne de l'attention portée à Dieu. L'homme est distrait de la contemplation de Dieu par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui apparaît bon à manger et séduisant à voir, ce qui arrive quand la contemplation de Dieu est remplacée par la recherche sans fin des techniques et des savoirs mondains. Les occupations de l'art auraient été pour l'homme une occasion de perdre du temps, ce qu'on devait éviter comme lui étant une chose nuisible. Oui, les occupations de l'art. L'homme ne devait donc avoir ni les vêtements de la nature, ni ceux de l'art, mais d'autres lui étaient préparés s'il signalait sa vertu qui devait briller en lui par la grâce divine, qui devait l'embellir comme les anges d'une parure éclatante, laquelle effacerait la beauté des fleurs et la splendeur des astres. Une hypothèse, la honte, surgit quand la connaissance est déconnectée de la chair. Autrement dit, quand connaître ne va plus avec aimer, quand il n'y a plus de place pour un autre, plus de place pour la nouveauté et l'inouï, plus de place non plus pour la parole, quand connaître a pour ambition de violer le secret des choses, des êtres et de Dieu, seule une connaissance qui aime maintient le secret. Pour le dire autrement, en régime biblique, il n'y a de connaissance en ce que quelqu'un est non quelque chose. Il n'y a de connaissance que de quelqu'un, une personne, un être. Ce n'est que dans la connaissance de quelqu'un que je peux connaître les choses. Et cette connaissance qui est toujours une non-connaissance, la préservation d'un mystère. La pénétration du bien et du mal, c'est une connaissance qui ambitionne de juger de soi et du monde et des autres. Elle désire tout maîtriser, réduire les conduites humaines à un comportement prévisible, au risque de se faire accusatrice et des autres et du monde et de soi. C'est une connaissance qui veut se passer des limites, faire comme si elle n'existait pas, comme si le monde, le corps, le temps étaient irraisonnables, comme si l'on pouvait, sans dommage, en percer l'énigme. Il y a donc trois dommages à l'assimilation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier, c'est de croire que l'on peut techniquement tout connaître, autrement dit, connaître sans aimer. La deuxième difficulté, deuxième dommage, c'est de remplacer le croire par le voir. Et le troisième dommage, c'est de croire que l'on peut juger de tout, et notamment juger du bien et du mal. Le désir de tout connaître, autre nom de la convoitise, n'a pas attendu la modernité pour exister. Saint Augustin en a repéré les traces dans sa propre vie et essaie magnifiquement le décrire. Je cite, « Il y a une autre forme de tentation insidieuse et dangereuse, usant des mêmes sens charnels. L'âme ne tire pas alors son plaisir directement de la chair, mais de l'expérience charnelle d'un désir vide et cupide, affublé du nom de science et de connaissance, un appétit de savoir dont les yeux se font les principaux agents sensoriels et que la parole divine a appelé « désir des yeux ». Fin de citation. Ivan Illich, théologien latino-américain, qui a tant marqué les années 80-90 dans la recherche théologique, raconte que la longue histoire de notre modernité, marquée par cette soif, a produit à l'époque médiévale la séparation entre le travail intellectuel et la vie spirituelle, quand la salle d'études s'est séparée de la chapelle. La lectio, pour les médiévaux, c'était la recherche de la sagesse de Dieu dans l'Écriture et son accueil qui n'avait d'autre fin que la relation à Dieu. Peu après, et l'ordre dominicain est né à ce moment-là, avec la naissance des villes et des universités, l'architecture a séparé l'espace de la lecture. D'un côté, la lecture liturgique dans le couvent, au réfectoire ou à l'église, de l'autre le studium. Dans ce contexte, deux manières de lire séparées sont apparues, la lecture spirituelle ou oratio et la lecture intellectuelle studium. Ainsi ont été séparées les deux manières de chercher et de connaître que nous avons toujours à unir de nouveau. C'est pourquoi il semble bien que la question de l'art de la pénétration du bien et du mal est pour nous autres modernes une importante question. Il peut y avoir un savoir profane, ce que la scène évangélique de la pièce de Monet frappée à l'effigie du César nous rappelle quelque chose d'important. Mais quid du geste de vouloir pénétrer ce savoir objectivement? L'autopsie, qui naît aussi à la charnière entre Moyen-Âge et Renaissance, est ce geste qui croit connaître le corps parce qu'il l'a ouvert. Mais ce faisant, on sépare artificiellement deux corps, le corps que j'ai dans sa matérialité et le corps existentiel, le corps que je suis. La tentation de l'art de connaissance du bien et du mal est de croire que quand on connaît le corps dans sa matérialité, on sait tout de lui. Voilà la faute qui risque de faire du scientisme une nouvelle religion en faisant de la science une idole, ce qu'elle n'est pas pour les chercheurs dignes de ce nom. Un certain scientisme contemporain illustre bien l'enjeu de la transgression d'Adam et d'Ève, la convoitise de la connaissance, ce que Freud puis Lacan appelleront la pulsion épistémologique.
Semble pareil à l'autre que j'aimais.